Bonjour.
Monsieur, et bienvenue sur la présentation des résultats du premier trimestre 2022 du groupe Chargeurs. Pendant la durée de l'appel, vous serez uniquement en écoute, mais vous aurez l'occasion de poser des questions à la fin de la présentation. Cela peut être fait en appuyant sur étoile 1 sur le clavier de votre appareil pour enregistrer votre question. Je vais donner maintenant la parole à votre hôte, Monsieur Michael Fribourg, Président Directeur Général du groupe Chargeurs, et Olivier Bucquin, directeur financier du groupe, pour commencer la conférence d'aujourd'hui. Monsieur, c'est à vous.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Olivier Bucquin. Bienvenue et merci de votre présence sur ce call de présentation donc des résultats semestriels 2022 du groupe Chargeurs. Sans plus attendre, je passe la parole à Michael Fribourg, Président Directeur Général du groupe Chargeurs.
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce point intermédiaire de l'année. Dans un environnement qui est très turbulent, un environnement macroéconomique, géopolitique, sanitaire aussi, qui reste très très turbulent, je crois que le groupe démontre une fois de plus sa capacité à la fois à conjuguer une forte réinvention de son modèle, nous allons y revenir, et en même temps de s'asseoir résolument dans un modèle de performance qui montre sa capacité à traverser toutes ces différentes tempêtes, y compris l'une des tempêtes que peu anticipaient, qui était l'inflation au premier semestre. Je le disais, le groupe, d'abord, est dans un moment important, accéléré, assumé, exigeant aussi, de pas seulement transformation ou mutation de ces métiers, mais de vraie réinvention. Nous avons mis à profit les toutes dernières années, y compris les années de Covid, pour mener cette réinvention, et nous allons continuer de la mener. Cette réinvention, c'est d'abord une réinvention de nos métiers de niche. Nos métiers ne sont plus et n'obéissent plus au même modèle qu'il y a encore 3 ou 4 ans. Ils sont beaucoup plus dans une intégration entre produits et services. Ils sont beaucoup plus systémiques dans leur réponse à leurs clients, ce qui explique la très forte hausse des parts de marché vis-à-vis de nos clients existants et nos gains de parts de marché vis-à-vis de clients nouveaux. Deuxièmement, nous réinventons notre portefeuille d'actifs avec des actifs toujours plus premium et un vrai travail pour faire de ces actifs tout seuls ou combinés des relais de performance et de croissance à des coûts maîtrisés pour la maison et préparer aussi nos actifs d'avenir dans les métiers de niche. Et enfin aussi, nous réinventons et adaptons en permanence notre modèle de gestion avec des problématiques nouvelles que notre modèle de gestion intègre au fil de leur apparition et toujours avec le bon timing d'anticipation quand c'est nécessaire. Je parlais de l'inflation tout à l'heure. La crise énergétique en est une, j'imagine que vous aurez des questions sur le sujet. C'est aussi un domaine sur lequel nous avons fortement anticipé pour sécuriser nos approvisionnements. Bien évidemment aussi, le contexte sanitaire qui perdure impose une adaptation, une réactivité extrêmement forte. Je rappelle que encore aujourd'hui, il y a toute une partie de l'Asie qui est sous régime de lockdown et sous contraintes sanitaires, ce que les Européens ont un peu tendance à oublier. Dans le même temps, cette réinvention est nourrie par une performance solide. Je rappelle que nous venons de publier des performances historiques en termes de chiffre d'affaires pour nos activités non sanitaires, un résultat opérationnel de nos activités non sanitaires qui est supérieur à 2019, donc avec le cumul des contraintes auxquelles nous faisons face, nous avons réussi à délivrer un résultat opérationnel, une marge opérationnelle élevée, un résultat opérationnel supérieur à ce qu'il était avant la pandémie. Et c'est tout de même assez important parce que nous avons toujours eu et nous conservons le souci de tracer la performance de ce qui engage le plus de capitaux dans notre allocation de capitaux dans la maison. Donc, c'est évidemment très important. Nous enregistrons aussi une montée progressive en forme de notre pôle luxe qui rassemble, dans le cadre de la simplification sur laquelle je vais revenir, toute une série de nouvelles activités et qui enregistrent des succès commerciaux et qui sont pour nous aussi des réserves de profit acycliques dès l'année prochaine. Et enfin, je pense que ça c'est une bonne surprise aussi pour beaucoup, la capacité et l'expression du pricing power du groupe dans l'intégralité de ses métiers, qui répond à son modèle de développement de métiers de niche et d'allocation de capitaux dans les métiers de niche, bah, exprime tout son potentiel. Certains s'étaient demandé si, face à des crises intenses comme celle du Covid, nos métiers resteraient rentables. Je rappelle pour tout le monde que l'intégralité de nos métiers sont restés rentables durant le Covid, y compris nos métiers qui ont fait face, par exemple, c'est le cas de dans le pôle technologie de Charger PCC Fashion Technologies, nos métiers qui avaient moins 35% de chiffre d'affaires pendant plus d'un an. Ils sont restés rentables malgré ces moins 35% de chiffre d'affaires et ils ont mis moins de 18 mois à récupérer leur niveau de chiffre d'affaires d'avant pandémie. Donc, je pense que c'est quand même un signal assez important. Quant à notre activité Charger Advanced Materials, qui est notre ancienne activité film, eh bien, cette activité-là, au sein du pôle technologie également, elle n'avait pas, elle, subi durant la pandémie d'à-coups sur son chiffre d'affaires. Par contre, évidemment, elle subissait des à-coups sur sa rentabilité et elle revient dans un niveau de résultat opérationnel supérieur à celui de 2019. Je pense que dans un contexte inflationniste, c'est assez significatif pour être souligné. Deux piliers, donc, concentrent notre énergie et notre activité aujourd'hui, la réinvention et la performance, dans un schéma de stratégie et d'organisation simplifiée autour de trois pôles stratégiques, technologie, luxe, diversification. Chacun de ces pôles obéit à des problématiques et à des opportunités différentes. Notre pôle technologie rassemble nos activités purement B2B, qui servent des secteurs et des besoins qui ont une croissance structurelle très forte. Dans des contextes où nous gagnons d'importantes parts de marché en partant déjà de parts de marché élevées. Olivier Bucquin aura l'occasion d'y revenir dans les commentaires sur la performance opérationnelle activité par activité. Un modèle aussi product as a service qui se développe et qui s'amplifie, qui nous permet aussi d'exprimer le pricing power puisque nous sommes dans des partenariats beaucoup plus imbriqués avec nos clients et tout ceci avec une constante. Je rappelle que nous avons des activités en général qui sont plutôt peu intensives en investissement et en capitaux. Notre pôle luxe qui rassemble nos activités servant des nouvelles catégories du luxe, B2B2C ou B2C, avec en son sein Charger Luxury Fibers, Charger Museum Studio, Swain et Charger Personal Care, des activités qui sont peu ou très peu sensibles au cycle, qui obéissent à des nouvelles catégories du luxe patrimonial ou expérientiel, avec une croissance internationale accélérée et aussi une discipline d'exécution très forte, et puis le pôle diversification qui pourra accueillir des intérêts minoritaires, mais dans le cadre d'une allocation très limitée des capitaux engagés au sein du groupe. Alors, déployons cette réinvention stratégique dans un contexte de turbulence macroéconomique et géopolitique très fort. Et notre réponse, comme on l'a fait et démontré pleinement déjà d'ailleurs depuis le début de la pandémie, qui sauf erreur n'était pas extrêmement planifiée et attendue par les observateurs les plus aguerris, ce modèle de réaction, il s'appuie sur une très forte culture de discipline opérationnelle et financière que ceux qui nous connaissent, bon, ceux qui nous connaissent sont familiers, mais ceux qui nous connaissent moins, il est important de rappeler que face à cet environnement incertain, nous concentrons notre force sur l'intensification de la productivité, de la flexibilité de nos outils industriels pour répondre à des transferts de production, du stop and go selon les géographies, ce qui pour un groupe qui est présent dans une centaine de pays est un atout et est extrêmement important. Nous optimisons aussi notre portefeuille client, notre portefeuille produit, ce qui permet des rationalisations et permet justement de maintenir une forte productivité et une efficacité opérationnelle dans un contexte incertain. Et aussi, évidemment, on a cette culture où chaque euro compte, ce qui fait que nos dépenses opérationnelles et d'investissement sont toujours très maîtrisées. Notre discipline financière nous conduit aussi, quant à elle, à se concentrer sur la croissance rentable. Ça, c'est évidemment très important. Je pense que quand on discute avec nos commerciaux, dans leur esprit, ils ont toujours un peu en ce moment de l'expression à la bouche, c'est la croissance rentable et le cross-selling, l'obsession de gagner des parts de marché chez les clients existants ou nouveaux et de le faire de façon profitable à court terme et en même temps le cross-selling, c'est-à-dire de leur vendre toujours davantage de produits et de gamme produits. Nous donnons la priorité à la génération de cash qui aussi se démontre ce semestre puisque malgré la très forte inflation et la reprise très forte des activités du pôle technologie, finalement, besoin en fonds de roulement, lui reste à peu près à 6% du chiffre d'affaires, ce qui quand même est très faible, et une allocation équilibrée du capital dans un environnement aussi où nous avons beaucoup de disponibilité et liquidité qui viennent encore d'être renforcées ces derniers jours. Le premier semestre se distingue par un chiffre d'affaires proche de 400 millions d'euros. Je suis slide 8 pour ceux qui suivent la présentation. L'EBITDA s'établit à 37 millions d'euros. Le résultat opérationnel à 25,4 millions d'euros avec, dans le contexte que nous connaissons, l'intégralité de nos métiers qui ont été les contributeurs nets à performance. Avant de passer la parole à Olivier Buquin pour une revue opérationnelle plus détaillée, je vais vous faire quelques commentaires sur chacun des deux pôles technologie et luxe. Sur le pôle technologie, slide 9, donc je rappelle les performances historiques en termes de chiffre d'affaires de Charger Advanced Materials et Charger PCC Fashion Technologies. Nous avons gagné d'importantes parts de marché auprès de nos clients. Les typologies de produits que nous vendons aussi sont en extension. Un point qui est très important, je le disais, c'est la forte progression des parts de marché chez nos clients. Quand nous regardons des grands marchés aux États-Unis ou en Europe, nous avons, comparativement à 2018 et 2019, beaucoup plus de clients, par exemple si nous prenons le top 20 ou le top 50 clients, chez qui nous avons des parts de marché qui sont supérieure à 50%, voire supérieure à 70%, et même des situations beaucoup plus nombreuses chez qui nous sommes le seul fournisseur. Et ça, c'est une donne totalement nouvelle par rapport à 2018 ou 2019. C'est un élément extrêmement important aussi dans le dialogue d'innovation, la sécurité des parts de marché à long terme, évidemment, le coût de substitution de nos produits ou de nos services pour les clients devient beaucoup plus élevé une fois que les stratégies sont imbriquées. Par ailleurs, nous bénéficions quand même d'une implantation mondiale. Je rappelle que notre premier marché reste les États-Unis, que dans le contexte actuel, la conjoncture américaine reste quand même à un niveau très élevé et dynamique comparativement à la situation européenne, et qu'évidemment, ça fait notre performance. Nous développons le modèle product as a service qui combine produits et services pour nos clients et il en résulte un résultat opérationnel cumulé de ces activités supérieur à 2019 et une reprise un rebond de ce résultat opérationnel de 40%, même de plus de 40% comparativement à 2021. Je le redis, nous aurons mis moins de 18 mois à retrouver des performances supérieures à notre trajectoire historique sur ces activités, ce qui quand même est un bon signal, y compris pour le premier actionnaire que je suis. Deuxièmement, sur nos activités du pôle luxe, nous sommes dans un moment charnière avec une bascule dans l'accélération de leur développement et de l'affermissement de leur modèle. Que ce soit chez Museum Studio, qui va franchir l'an prochain plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires avec des niveaux de rentabilité qui seront intrinsèquement soutenus par les activités culturelles, mais aussi, si les activités événementielles repartent, qui seront soutenues par cette dimension-là, mais indépendamment, les activités culturelles elles-mêmes seront des très gros contributrices l'an prochain. Chargeur Luxury Fibers connaît aussi une expansion accélérée, et c'est la rétribution commerciale qui va progressivement se retrouver dans la performance de notre stratégie de vérification de cette activité de développement du modèle d'imbrication produits et services. Et nous avons l'expansion commerciale de Swain. Quant à Chargeur Personal Care, elle connaît évidemment, elle, une baisse significative d'activité, mais qui n'est pas nécessairement extrapolable, parce que nous avons des contrats pluriannuels, et donc il faut analyser la performance en rythme pluriannuel. Je rappelle que c'est une activité sur laquelle la rentabilité de nos capitaux engagés en 2020 a été à peu près de 1200%, en 2021 de 400%, et elle reste encore en 2022 supérieure à date à plus de 36%. Donc c'est quand même assez significatif. Le payback de ces activités aura été à peu près de 4 semaines. Ces investissements auraient été de 4 semaines. Donc, c'est quand même aussi à relativité dans ce contexte-là. Notre portefeuille de marque, et ça c'est extrêmement important, à forte désirabilité internationale, s'élargit autour de Chargeur Luxury Fibers, autour de Museum Studio et autour de Swain. Et nous allons intensifier et développer, à coût maîtrisé, ces modèles. Voilà, je passe la parole à Olivier Bucquer pour la revue opérationnelle et financière détaillée et reste évidemment ouvert à vos questions. J'imagine que vous aurez des questions sur la conjoncture, sur l'énergie, sur d'autres aspects opérationnels, et on sera très heureux de vous donner nos éléments de réponse et nos éléments d'adaptation à cet environnement, surtout, qui sont importants. Olivier, je te passe la parole.
Merci, Michel. Donc, bonjour à nouveau à toutes et à tous. Je vous invite à passer à la slide 12. Vous retrouvez l'évolution de notre chiffre d'affaires à la fois par continent et par métier. On en retient que, hors personal care, l'ensemble de nos métiers donc réalise une croissance à deux chiffres, hein, de 30% de leur activité par rapport au S1 2021. Et comme on l'a évoqué, le fort rebond de Chargeur Fashion Technology ramène la répartition du chiffre d'affaires par zone à notre équilibre assez classique chez Chargeur, d'un peu plus de 40% de chiffre d'affaires en Europe et d'un peu moins de 30% en Asie, un peu moins de 30% dans les Amériques. Donc un chiffre d'affaires équilibré au niveau mondial. Allons maintenant dans la performance de nos cinq métiers, en commençant par le pôle technologie. Un pôle technologie qui a réalisé une croissance de son chiffre d'affaires de 26% par rapport à l'an passé. Et le ROPA de ce pôle technologie a augmenté de 42% par rapport au S1 2021, qui lui a permis donc de retrouver et même de dépasser son niveau d'avant-crise sanitaire. Alors allons page 14. À l'intérieur de ce pôle technologie pour examiner les performances de notre métier Chargeur Advanced Materials, qui est le nouveau nom de Chargeur Protective Film. Dans page 14, vous voyez que notre chiffre d'affaires établit un nouveau record absolu à près de 200 millions, on est à 190,7 millions très précisément, donc une croissance organique de 9,3% par rapport au premier semestre 2021, qui était, vous vous en souvenez, déjà un record. Et par ailleurs, le ROPA, le résultat opérationnel, est lui aussi en croissance à deux chiffres. Et j'insiste sur le taux de marge opérationnelle qui est maintenu à 8,4%. Et une performance qui est évidemment absolument remarquable dans le contexte d'inflation généralisée du coût des intrants, et notamment pour ce métier, celle du polyéthylène. Alors, je vais reprendre rapidement ce qu'évoquait Michel Fribourg, mais cette performance de maintien de la marge opérationnelle, évidemment rendu possible par le pricing power de Chargeur Advanced Materials. Donc très clairement, c'est notre part de marché mondial, notre position de leader de très loin du marché mondial, avec une part de marché très significative chez beaucoup de nos grands clients, hein, très souvent jusqu'à 100%. C'est dû aussi, ce pricing power, au caractère extrêmement innovant et mission critical de nos produits. C'est également dû à l'action commerciale d'ampleur qui a été conduite ces dernières années pour élargir le champ des produits vendus à un même client, et ça c'est un point tout à fait clé qu'on va retrouver également chez Fashion Technology. Et enfin, naturellement, notre performance industrielle et logistique qui a été renforcée par la chaîne de production, la ligne de production en Italie il y a quelques années. Et je voudrais insister sur un point, c'est que même s'il est en légère diminution, notre carnet de commandes à ce jour, reste 40% au-dessus de ce qu'il était à la même période de l'année dans les années précédant la crise sanitaire. 40% de carnet de commandes supérieur aux années 2019, 18 ou 17, qui étaient dans l'histoire de Protectifine déjà des années fortes. Je vous propose de passer à la page 15, chargeur PCC Fashion Technology, donc qui a un chiffre d'affaires en très forte croissance organique par rapport à 2021, donc c'est le rebond qui a été annoncé il y a à peu près un an, hein, en 2021, rebond au premier comme au deuxième trimestre, on est quasiment revenu au niveau pré-pandémie, et c'est important, même avec les confinements en Chine, qui restent très larges et évidemment qui pèsent un peu sur l'activité dans cette zone. Donc les marques de luxe et de mode ont accéléré leurs commandes hein, pour accompagner le rebond de leur industrie et notre carnet de commandes à ce jour est lui toujours à un niveau record. La marge d'EBITDA dans ce métier franchit à nouveau les 10% et notre marge opérationnelle a doublé par rapport à 2021. Elle se rapproche de ce qu'elle était en 2019 qui était encore une fois des niveaux historiquement extrêmement élevés de rentabilité. Donc ça démontre la productivité du métier et sa capacité à répercuter la hausse des intrants. Cette hausse est un peu moins forte, donc ça sera un peu moins forte que chez le masse matériel, mais elle est néanmoins évidemment réelle quand on pense à la matière première, quand on pense à l'énergie, quand on pense au transport, on la répercute en totalité sur nos clients. Là aussi, en raison de notre position de leader et de notre pricing power. Je vous propose d'aller dans notre pôle luxe. Donc, ce pôle luxe est en forte hausse par rapport à l'année dernière. Et si on va sur Luxury Fibers, vous voyez que notre activité retrouve le niveau, quasiment le niveau qu'elle avait avant la crise. À plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et une rentabilité qui, elle aussi, augmente nettement et se rapproche de 2010. Cela s'explique par les mêmes phénomènes que pour Fashion Technology, c'est-à-dire un redémarrage de l'activité, mais aussi par la progression de notre ligne Nativa qui notre laine traçable Nativa qui est de plus en plus demandée par les marques. On a aujourd'hui déjà des accords avec de grandes marques, Decathlon, Vivienne Westwood, Stella McCartney, mais de plus en plus, nous discutons avec d'autres grandes marques qui vont nous rejoindre pour commercialiser notre laine Nativa. Passons à la slide suivante, chargeur Museum Studio. Donc, nous avons ici une forte progression du chiffre d'affaires qui est de 30% croissance organique par rapport à l'année dernière, laquelle croissance organique se répartit 50-50 entre la croissance totale de 60%, excusez-moi, se répartit à 50% en croissance organique et à 50% en croissance externe liée à l'acquisition d'Event à la fin du premier du deuxième semestre 2021. Chez Chargeur Museum Studio, ce qu'il faut souligner, c'est que nous avons bâti en quelques années le leader mondial des services limités. Nous rappelons dans cette slide les leviers clés qui nous permettent de nous imposer sur ce marché. Nous sommes très largement reconnus. Ce que je voudrais souligner également, c'est que la rentabilité que vous observez sur le semestre n'est pas, je dirais, significative de ce qu'est la réalité normative de ce métier qui est au-delà de 10%. Elle s'explique par un phénomène de séquençage. Nous avons eu, depuis l'acquisition de nos sociétés britanniques, en particulier en 2019, nous réalisons une transformation de ces activités pour aller vers les grands projets. Ça prend un petit peu de temps. Et ces grands projets sont gagnés progressivement et porteront leur plein effet à partir de 2023 et évidemment 2024 et 2025 très largement. C'est vrai également pour notre filiale américaine. Et puis, deuxième phénomène qu'évoquait Michael Fribourg tout à l'heure, nous avons liée à la conjoncture, une partie de notre activité, environ 25%, qui est liée au retail et aux salons commerciaux, qui, elle, n'a pas véritablement repris et qui est progressivement en train de reprendre. Et si elle retrouve un niveau tel qu'il était avant la crise, contribuera évidemment à la rentabilité de l'ensemble. Nous sommes, en tout état de cause, extrêmement confiants sur ce métier pour lequel nous avons un carnet de commandes ferme de grands projets records, extrêmement élevés, qui nous donne une forte visibilité sur les prochaines années. Nous avons en plus renforcé notre positionnement dans ce métier avec l'acquisition récente de Skira Editore, qui est l'une des maisons d'édition d'art les plus iconiques du monde, et qui nous donne une capacité à servir nos clients tout au long de l'année, j'allais dire, et pas seulement à l'occasion de très grands projets structurés. Enfin, nous avons dans le pôle luxe, également nous avons dans le pôle luxe Swain, qui est une activité que nous avons acquise l'année dernière, qui repose sur des marques extrêmement solides, avec plus de 250 ans d'existence en Grande-Bretagne. Nous réalisons un gros travail de repositionnement, d'élévation de ces marques dans l'univers des ultra-luxe. Nous avons beaucoup agi en termes de restructuration, réorganisation, optimisation, modernisation de l'outil industriel, et nous travaillons sur de nouveaux points de distribution dans des endroits absolument iconiques à Londres pour développer cette marque. Nous sommes également en train de travailler sur des contrats de distribution au Japon pour des corners de Swain, qui va donc pouvoir donner son plein essor dans les prochaines années. Nous avons renforcé également cette activité avec l'acquisition récente de The Cambridge Satchel Company, qui est à la fois un élargissement au segment de marque de gamme du luxe abordable et qui aussi nous apporte une infrastructure industrielle extrêmement moderne et qui servira le développement de Swain. Enfin, Personal Care, donc comme l'exprimait Michael Fribourg il y a quelques instants, nous sommes dans une activité qui doit s'apprécier sur un rythme pluriannuel. Le premier semestre a été dans le cadre d'une normalisation de la pandémie en Europe, même si elle reste importante en Chine. Nous restons extrêmement mobilisés avec une capacité de répondre en très peu de temps avec des quantités considérables et des qualités également très élevées aux commandes de nos clients dans le cadre des contrats stratégiques pluriannuels que nous avons. Et tout cela à un niveau de coût extrêmement bas et qui nous permet, comme l'indiquait Michael Fribourg il y a quelques instants, d'avoir des niveaux de rentabilité sur capitaux engagés ultra élevés, 1200% donc en 2020, 400% l'an passé et encore 36% cette année, avec un taux de retour, un taux de payback sur nos équipements de quelques semaines, ce qui est effectivement assez rare, toute industrie confondue. Parallèlement à cette capacité de masse, nous diversifions ce pôle d'activité. Le partenariat avec Socwell sur les chaussettes de compression est en marche et Fournival Altès, que nous commercialisons sous la marque Altès Studio, est en forte croissance de plus de 40% par rapport à l'année dernière. Je vous propose maintenant de passer à la revue financière en slide 21 avec le compte de résultat du groupe. Au-delà de la performance du chiffre d'affaires que nous avons déjà évoqué, je voudrais attirer votre attention sur la marge brute qui à 26,4% reste à un niveau élevé, même supérieur à ce qu'il était au premier semestre 2019. Donc là encore, dans le contexte que nous connaissons d'inflation des coûts, c'est une très belle performance. Ce qu'il faut même voir, c'est que si on hors Personal Care, si on compare à 2021, on a un taux de marge en amélioration de 0,6 points, ce qui souligne encore une fois notre pricing power, en particulier dans nos métiers du pôle technologie. L'EBITDA s'établit à 37 millions, le ROPA à plus de 25 millions, je rappellerai simplement que l'Europe a le deuxième semestre 2021 était à 16,7. Donc, on a une belle performance au premier semestre 2022. Donc, un repas qui est en hausse de près de 12% par rapport à 2019, par rapport à l'avant-crise. Et si on écarte Personal Care, dont évidemment l'année dernière, la performance avait été portée par la pandémie, notre repas est en croissance de plus de 30% par rapport au premier semestre 2021, grâce en particulier aux performances d'Advanced Materials et de Fashion Technology. Alors, en dessous du repas, je signalerai quelques éléments. Les amortissements d'actifs incorporels, le PPA, sont en hausse de 1 million d'euros en raison de l'intégration d'Event. Les éléments non récurrents sont très limités, à moins 0,9. Ce sont à la fois des charges non récurrentes qui sont modérées et qui sont compensées en partie par des gains sur la valorisation accordée aux minoritaires de quelques-unes de nos participations et qu'elles coûtent d'ailleurs ont été exercées au mois de juillet. Nos charges financières sont en augmentation, mais la base de comparaison 2021 est défavorable, puisque on avait réalisé au premier semestre 2021 des gains liés à la gestion active de notre trésorerie. En revanche, si on considère nos charges d'intérêt d'emprunt, elles sont quasiment stables, à 6,6 millions, entre 6,3 millions au premier semestre 2021, montrant la maîtrise du coût de notre endettement. La charge d'impôt s'élève à 2,6 millions, qui est en baisse par rapport à l'année dernière et qui est lié au résultat de la période. Donc, au total, le résultat net par du groupe s'élève à 10,2 millions, avec un bénéfice dilué par action de 44 centimes, en hausse de 22% par rapport à 2019. En page 22, notre tableau de flux de trésorerie reflète une marge brute d'autofinancement de 18 millions, à laquelle ont contribué tous les métiers. Elle est inférieure à ce qu'elle était au premier semestre 2021, où encore une fois on avait une forte contribution de Personal Care. Elle est en revanche nettement supérieure à la MBA deuxième semestre 2021, qui était d'environ 6 millions. Nous avons donc augmenté notre BFR de 17,8 millions en raison de la forte croissance de l'activité du pôle technologie, une fois plus de 26%, et de l'augmentation mécanique, je vais dire comptable, de la valeur des stocks liée à l'inflation généralisée des emprunts. J'insisterai, comme l'a fait Michael Fribourg, sur le fait que notre ratio BFR sur chiffre d'affaires reste à un niveau qui est le plus bas de ces dernières années, à part 2021, mais qui était très particulière, et dans les plus bas des comparables. 6%, BFR 6% du chiffre d'affaires. Ce qui nous amène à un cash flow opérationnel positif de 0,3 millions. Le niveau de CAPEX très modéré est à moins de 4 millions. C'est évidemment le fait que, dans le passé, nous avons réalisé des investissements très importants et nous avons aujourd'hui des CAPEX continus très contrôlés. Nous avons donc racheté des minoritaires et financé des compléments de prix sur les dernières acquisitions pour 1,5 million, distribué un dividende en numéraire de 12,8 millions. Enfin, le poste autre de ce tableau de financement s'explique principalement par le remboursement de la dette de location, un peu plus de 5 millions, des rachats d'actions propres pour 800 000 euros et la revalorisation d'autres actifs financiers courants dans le cadre de notre gestion de trésorerie. Au total, notre dette nette est établie à 135 millions. Elle reste à un niveau assez maîtrisé, malgré l'évolution du BFR et le versement du dividende qui, sur ce dernier point, reflète évidemment notre politique de retour à l'actionnaire. En page 23, notre bilan traduit une hausse de nos immobilisations incorporelles de 26 millions liées à la consolidation d'Event à partir de janvier dernier et à l'impact des variations de change sur les goodwill. Une légère baisse des immobilisations corporelles liée à l'amortissement des investissements des dernières années, l'augmentation du BFR déjà évoqué et donc au total un renforcement de nos capitaux propres grâce aux résultats nets du premier semestre, aux dividendes de conversion, aux différences de conversion liées à l'appréciation du dollar, compensées en partie par les dividendes en lui-même. Donc la dette nette nous permet de maintenir un ratio de levier très maîtrisé, légèrement supérieur à deux fois l'EBITDA, tout en ayant au cours de ces deux dernières années, financer notre croissance organique, investi et réalisé 5 acquisitions. Le groupe a une structure financière solide et très flexible. Comme vous le voyez sur cette slide, la maturité moyenne de nos financements est de 3,3 ans. Et nous avions à fin juin plus de 300 millions de ressources financières disponibles. Je conclurai par la page 24 en vous annonçant que nous venons de lever 105 millions de lignes bilatérales qui viennent renforcer la solidité financière et la liquidité du bilan que j'évoquais il y a un instant. 5 banques de premier plan ont ainsi confirmé leur confiance dans les performances actuelles et futures de Chargeur, ce qui est évidemment un signe fort dans la période d'incertitude que traverse le monde actuel. Ce sont principalement des lignes revolving qui ont été obtenues dans d'excellentes conditions de souplesse et de taux et qui nous donnent évidemment des moyens supplémentaires pour financer la croissance du groupe et lui permettre de s'adapter en permanence à son environnement et de saisir toutes les opportunités. Je repasse maintenant la parole à Michael Fribourg pour la conclusion de cette présentation.
Bien, vous le voyez à la fois, Chargeur adapte son modèle de gestion à un environnement volatile et active petit à petit les différents moteurs et relais de croissance. Je rappelle que notre objectif est de poursuivre le changement d'échelle du groupe dans le cadre du programme Leap Forward, que cet objectif suppose de franchir des effets et de générer des effets de seuil et de masse dans le déploiement du chiffre d'affaires de la performance. Et donc, il faut aussi tenir compte de l'aspect non linéaire que cela suppose, puisque, par exemple, Olivier disait sur le pôle Museum Studio, pour passer d'un petit braquet à un grand braquet, en fait, ce n'est pas comme sur un vélo tout-terrain où il faut passer les vitesses une à une, sinon c'est extrêmement lent. Pour pouvoir aller sur le plus grand braquet, il faut accepter des courbes en J aussi pour pouvoir avoir les effets de seuil, de masse et de performance. Notre portefeuille d'activité est équipé pour gérer ces volatilités économiques, je le disais. Nous sommes dans un environnement que nous jugeons encore incertain et nous pensons que la fin 2022 et 2023 va rester dans cet environnement-là, mais que de l'autre côté, nous avons aussi des activités qui sont dans leur ensemble bien positionnées, à la fois pour s'adapter et pour tirer parti des plans de relance qui seraient mis en place ou des plans de soutien qui seraient généralement mis en place pour l'économie. Nous sommes dans des activités aussi qui ont plutôt démontré leur capacité à tirer en avance de phase ces effets de reprise dans un contexte où déjà ils ont énormément rebondi par rapport à l'avant-Covid. Nous activons, je le disais, nos moteurs de performance et nous allons aussi tirer parti de cette activation dès l'exercice prochain, quel que soit l'environnement économique. Voilà, vous passe la parole et nous vous passons la parole pour pouvoir vous laisser du temps de questions. On aura tenu une petite quarantaine de minutes dans la présentation et donc on veut pouvoir vous laisser le temps d'un espace d'échange.
Mesdames et messieurs, si vous souhaitez poser une question, appuyez sur étoile 1 sur le clavier de votre appareil. La première question vient de la ligne de Christian Monti de Uses Gestion. C'est à vous.
Oui, bonjour messieurs, merci. Attendez, est-ce que mon micro...
Oui, on vous entend.
Bonjour, on vous entend, mais on ne sait pas qui parle.
Ah, monsieur, si vous pouvez prendre étoile 1 de nouveau, s'il vous plaît.
On va passer à une autre question en attendant que notre ami se reconnecte.
Oui, j'ai installé par montage, j'avais plusieurs questions. La première, c'était sur la dynamique sur du pôle technologie. Est-ce que vous êtes confiant pour maintenir ce niveau de performance sur le S2, que ce soit sur la partie advanced material et sur la poursuite du rebond dans la partie textile, et globalement sur les marges avec l'accentuation de l'inflation, est-ce que vous pensez pouvoir maintenir le niveau de marge du S1 sur le S2?
Alors, Je vais vous répondre en général déjà sur l'inflation. Je rappelle, juste pour donner un exemple quand même assez parlant, déjà, prenons Chargeur Advanced Materials, comparons le premier semestre 2022 et le premier semestre 2020 ou même 2019. Et si on l'élargit et extrapole à celle de l'année, le surcoût matière qu'il y a eu dans cette activité entre ces deux périodes est de 25 millions de semestre, 50 millions à l'année. Pourtant, nos marges sont restées au même niveau. Globalement, nous ne sommes pas, nous arrivons à passer les augmentations et à transférer, compte tenu de la nature de nos positionnements et du caractère mission critical de nos produits, qui ne pèsent pas énormément non plus dans le prix de revient de nos clients, nous passons les hausses de prix. Nous sommes avec un pricing power élevé, un premium de prix assez élevé par rapport à la concurrence. Pour l'instant, on continue des augmentations de prix. Ça concerne l'ensemble de nos activités. Ça, c'est plutôt inhérent au modèle chargeur. Si j'ose dire, le modèle chargeur de gestion d'activité niche, de déploiement d'activité niche, intrinsèquement, il est quand même un edge par rapport à ce modèle. Comme on le disait, on a des carnets de commandes qui sont records sur l'activité chargeur PCC Fashion Technologies au sein du pôle technologie. Sur l'activité film, il y a de la volatilité avec des situations assez contrastées entre les États-Unis et l'Europe à ce stade, dans un contexte où les niveaux sont très supérieurs déjà à 2019. Donc, ce qu'on observe partout, c'est que les carnets vont avoir un tempo qui est moins long, et donc ça demandera plus de réactivité. Bon, mais ça n'a pas d'incidence en soi sur notre puissance d'effet prix. Ça peut avoir de l'incidence en général sur l'effet volume, mais ça n'a pas d'incidence sur l'effet prix. Donc, nous, de toute façon, nous vendons des produits qui sont à forte valeur ajoutée, à forte marge. Ensuite, on n'a pas de boule de cristal générale sur l'environnement économique, ce sont des consommables. Donc, les volatilités peuvent les affecter, mais globalement, en tout cas, on n'a pas de problématique aujourd'hui à passer nos hausses de prix. Et on n'en a pas aujourd'hui, on n'en avait pas il y a 6 mois, on n'en avait pas il y a 1 an, on n'en avait pas il y a 3 mois. C'est pour nous, on les passe, on est organisé pour les passer. On avait d'ailleurs souligné à la publication annuelle 2020, enfin des comptes 2021, qu'on avait sans doute un peu trop tardé à les passer sur ce qui est aujourd'hui Chargeur Advanced Materials, sans doute d'à peu près 3 mois. Mais maintenant, il y a une très grande discipline pour les passer. Aussi, il y a un autre aspect qui peut compenser la volatilité, c'est les gains de parts de marché. Parce que ce sont des activités qui ont énormément d'opportunités de marché additionnelles. Donc, voilà, on a cet environnement-là qui est assez flexible et des outils qui sont eux-mêmes très flexibles. On peut aussi basculer de la production d'Europe vers les États-Unis, des États-Unis vers l'Europe, ou de l'Europe vers l'Asie sur certains produits. Donc en fait, on est en permanence en adaptation de ce régime-là. On n'a pas une rigidité d'adaptation de notre outil à l'environnement actuel. Et on a 3 grands pôles de production qui sont Asie, Europe, États-Unis pour les activités liées au textile. On a Europe, États-Unis et un peu d'Asie d'ailleurs pour les activités chargeurs advanced materials. Donc au sein de ce pôle, mais c'est, j'ai envie de répondre, c'est un peu intrinsèque au modèle du groupe. C'est-à-dire que on a des activités, on ne développe que des activités à pricing power, sinon on ne les développe pas, on n'est pas les gammes qui n'ont pas de pricing power. Donc jusqu'où ça ira? Ça ira jusqu'au moment où tout le monde continuera de toute façon à augmenter ses prix, et nous continuerons à augmenter nos prix, et nous augmentons et nous avons augmenté substantiellement nos prix, nous allons continuer à augmenter substantiellement nos prix. Nos commerciaux l'ont fait savoir à nos clients. Ensuite, il y a le paramètre énergie. Je ne sais pas si c'était implicite dans votre question, mais j'imagine que d'autres voudront revenir là-dessus. Notre facture énergétique 2022, c'est 12,5 millions d'euros. Notre facture énergétique 2023, elle sera transférée aux clients, pour résumer. Le marché est extrêmement volatile. Nous avons, nous, sur le sujet de l'énergie, pris deux décisions qui nous semblent très importantes. Premièrement, une décision de sécurisation énergétique. Donc, pour être très concret, nos usines européennes sont équipées de groupes électrogènes capables de les faire tourner plusieurs jours en continu en cas, en électricité comme en gaz, pour certaines d'ailleurs, en production de gaz, en cas d'interruption d'approvisionnement. Donc faut scénariser un schéma où il y aurait une interruption continue plusieurs jours. Donc, c'est plutôt fait a priori pour gérer des creux, même nous permettre de revendre de l'énergie dans une stratégie d'effacement en ayant des prix de fuel industriel qui sont moins élevés que les prix de gaz ou d'électricité. Voilà, nous avons anticipé dès la fin de printemps, bien avant que ceci devienne un débat d'opinion publique, et dans l'opinion publique et dans les milieux économiques, en fait, nous avions anticipé, et donc nous avons aujourd'hui beaucoup d'industriels, je le précise parce que beaucoup d'industriels sont en quête d'avoir cela, mais nous en avons. Et je pense que ça va être très dur pour certains industriels, mais nous, on est équipés, et c'est un appareillage quand même assez spectaculaire. Donc voilà, ça c'est l'illustration de l'adaptation du modèle de gestion à l'environnement, et en ayant toujours les quelques semaines d'avance qui conviennent par rapport à la situation. Donc ça, nous sommes couverts par rapport à ce risque. Bon, s'il y avait des interruptions plusieurs jours de fourniture d'électricité ou de gaz, je pense que ça deviendrait un très gros problème d'opinion publique, parce que je ne sais pas bien comment les gens feraient tourner leur réfrigérateur ou leur congélateur. Donc voilà, nous on est là équipés pour des cas très extrêmes, continus, et on va plutôt être en capacité de faire de l'efficacité énergétique, qui est d'ailleurs une autre dimension, qui est à la fois de sécuriser nos approvisionnements, mais faire de l'efficacité énergétique en optimisant notre planification industrielle et logistique à l'échelle mondiale. Deuxièmement, sur l'année 2023, et au-delà, nous avons une stratégie qui est une stratégie complètement adaptative. Nous n'avons pas voulu courir le risque d'un hedge à des coûts élevés pour l'année 2023. Je pense qu'il va y avoir des drames industriels avec des gens qui se sont hedgés dans un marché complètement fou. Et donc nous, on sera à la fois en régime adaptatif, mais aussi, vu que nous avons de la production en France, en régime bénéficiaire des quotas sous plafonnement. Le plafonnement qui existe déjà lié à l'énergie nucléaire, puisque à peu près 70% de notre consommation énergétique française est couverte par le quota nucléaire. Donc là, ça fait que sur ça, on est protégé. Il reste les 30% restants, mais sur les 30% restants, on ne sait évidemment pas hedger. Il faut garder son sang-froid à des conditions qui sont complètement déraisonnables, comme celle du marché fou, d'autant que, vous l'avez vu, c'eût été stupide, puisqu'il y a projet actuel de plafonnement des prix et de décorrélation du prix électricité et énergie. Donc ça concerne les 30% pour la France, ça concerne l'intégralité pour l'Italie. Après, on a aussi de la production aux États-Unis où le rapport, il est le coût est entre 10 et 20 fois moins cher selon que vous êtes en électricité ou en gaz, et nous avons des usines sur place comme nous avons des usines en Asie où du coup il n'y a pas la même problématique qu'en Europe. Sur ce sujet de l'énergie, si vous voulez, on pourrait y revenir, mais voilà, nous, notre position est d'être, d'être avec beaucoup de sang-froid, parce que quand on voit, par exemple, qu'entre le 25 août et le 5 septembre, le prix du mégawatt-heure a été réduit de 40% sur l'électricité ou le gaz, du fait de la volatilité. Donc le problème est plutôt la volatilité en ce moment du marché qui dysfonctionne, et qui n'a pas été suffisamment régulé. Je pense qu'il y a des régulations qui sont en train de se mettre en place, y compris demain, sur une réunion à Bruxelles sur le sujet. Mais nous n'avons évidemment pas voulu hedger dans un mouvement de panique sur l'approvisionnement énergétique, parce que, on a la flexibilité, deux, il faut avoir un régime adaptatif, et nous avons des contrats, et nous mettrons en place des contrats qui sont sur ce régime adaptatif. Je dis ça parce que beaucoup d'industriels, un peu pris de panique, ont conclu notamment en France, c'est pas notre cas du tout, mais je le dis, les distributeurs ont proposé à beaucoup d'industriels, dans le mouvement de panique d'explosion des prix du mégawatt gaz ou électricité, des contrats qui, en fait, leur liaient les mains pour tout 2023, voire 2024, sur ce qui n'était pas AREN pour l'électricité et sur toute leur consommation de gaz. C'est que certains ont loqué des prix qui sont complètement fous et qui ne repasseront, là, pour le coup, jamais à leurs clients, parce que si vous êtes plus dans le prix de marché, vous ne le passez pas. Nous, on passera à nos clients en fonction de l'évolution du prix, au mois le mois ou plutôt au trimestre, et voilà, c'est comme ça qu'on l'appréhende. Mais si le prix de l'énergie, si la facture énergétique représente 16% du PIB en Europe, je pense que il y aura un impact sur le niveau global d'activité européen qui fera que le prix de l'énergie s'effondrera. Donc il y aura un vaste communicant entre l'effet croissance et l'effet rationnement de l'énergie. Donc voilà, notre stratégie, nous, sur l'énergie, c'est 1, sécurité, 2, flexibilité, et puis on passera, comme on passe d'autres coûts qui ont été multipliés par X, je parle bien multipliés, enfin, qui ont augmenté de quelques pourcents, qui ont été multipliés plusieurs fois leur valeur au cours des derniers mois, et surtout aussi la planification énergétique. Alors, le terme sobriété est à la mode, c'est une façon peut-être pour certains de dire puisqu'il y a de la pénurie énergétique, c'est donc de l'avoir organisée. On a besoin et on soutient de la croissance, on a des besoins structurels de croissance. On va faire de l'optimisation énergétique. La sobriété, on en fait naturellement. On ne s'amuse pas à consommer de l'énergie pour le plaisir de la consommer. C'est quand même un bien précieux, l'énergie. Mais voilà, on va être en modèle très adaptatif là-dessus. Il y a des circonstances où être EDG c'est une bonne chose, d'autres où être EDG est une très mauvaise chose. Si vous avez fait le S, faut pas jouer des spéculateurs, ça sera un marché fou de l'énergie. Et ça répond à votre question.
Très bien. Merci beaucoup.
Qui, à mon avis, était la question de beaucoup.
Florian Beaumont, Berenberg. J'aimerais continuer sur le thème de l'inflation. Vous n'avez pas du tout parlé de Pôle Luf et surtout de CMS. CMS, donc, si j'ai bien compris, vous sécurisez les contrats plusieurs années à l'avance. Comment vous vous protégez de l'inflation, justement, sur ce secteur?
Alors, d'abord, on a beaucoup d'activités de service dans CMS. Hein, donc, c'est des activités qui ne sont pas des activités. On a des activités de fabrication et des activités de service. Les activités de fabrication, elles ont aussi des clauses d'ajustement. Donc, ça c'est pas un gros... Et des clauses de renégociation sur ces aspects quand il y en a. Donc, c'est pas un gros enjeu. Sur le volet service, c'est plutôt l'inflation salariale qui peut jouer. Donc, on n'est pas dans les... du tout les mêmes enjeux que les échelles dont on parlait en matière énergétique. Je rappelle quand même que c'est des activités qui sont beaucoup moins intensives en industrie que nos autres activités. Elles sont beaucoup moins intensives également en coûts de transport. Parce qu'on parle de l'inflation de l'énergie, je rappelle que les coûts de transport ont été multipliés par 10. Par 10 sur certaines périodes du premier semestre. Et malgré ça, on a maintenu des niveaux de... On a fait ces performances malgré des coûts de transport multipliés par 10 comparativement à 2020. Quand même pas rien. Elles sont moins intensives en industrie. On a des clauses d'adaptation. La composante après concerne plutôt les salaires. Mais sur les volets de fabrication, il y a quand même beaucoup d'adaptations contractuelles chemin faisant, parce qu'il y a des complexités additionnelles que veut le client, parce que donc ce sont des contrats pluriannuels et en même temps qu'ils font vivre. Donc là, c'est plus facile d'adapter que quand vous vendez a priori que si vous vendez du consommable. Mais en même temps, sur le consommable, comme je dis, vu qu'on les adapte aussi, pour nous, c'est pas vraiment un... Aujourd'hui, c'est pas le cœur de nos enjeux, l'inflation. Pour résumer, chez Chargeur, c'est pas le cœur du sujet. Le cœur du sujet pour nous, c'est la conduite de notre mutation, de notre réinvention, c'est le gain de part de marché et de l'autre côté, l'adaptation et la flexibilisation de l'appareil humain, logistique et industriel. Par exemple, sur Personnel Care, où nous avons des contrats pluriannuels, ils ont aussi des clauses spécifiques en cas d'augmentation très forte de certains intrants. Ils sont peu concernés aujourd'hui parce que leurs intrants n'ont pas explosé comme d'autres secteurs, mais on a des clauses aussi, donc on a des edges aussi contractuels là-dessus. Est-ce que ça répond à votre...
Oui, ça répond à ma question, merci. Si on peut continuer sur CPC, est-ce que vous avez un pipeline d'acquisition des cibles en vue pour l'instant?
Oui, on a des cibles. Après, on prend aussi notre temps parce que l'environnement, encore les derniers mois, était à des prix assez élevés. Il y a des choses qui nous intéressent, qu'on aimerait acheter, mais on ne veut pas le faire à des prix qui seraient substantiellement décorrélés de leur prix l'an prochain. Donc on est aussi dans une logique adaptative. On a concentré aussi beaucoup nos efforts sur Museum Studio en matière de qualité d'acquisition et d'intégration. Ça, c'est extrêmement important. Il ne s'agit pas seulement d'acquérir. Je rappelle quand même qu'on a acquis une vingtaine de sociétés depuis les dernières années, c'est beaucoup. Et on les intègre à chaque fois pour en faire des succès. On l'a montré chez CFTPCC, c'est complètement intégré. Et Museum Studio, aujourd'hui, c'est complètement intégré. On mentionnait, par exemple, une simplification qu'on a mise en œuvre puisqu'on avait trois sociétés, ne serait-ce qu'à Londres, où nous sommes aujourd'hui. Et en fait, on les a réunis en une société. Donc évidemment, ça réduit les coûts et ça réduit tous les sunk costs généraux. Oui, on a des acquisitions en ligne de mire qui vont plus vers le personal care et moins vers les équipements de protection individuelle. On n'a jamais voulu faire des acquisitions, on l'a toujours dit d'ailleurs, sur les équipements de protection individuelle. On a fourni la Valacès qui correspond en qualité d'actif, en modèle d'actif, un peu à ce que nous recherchons, c'est-à-dire des produits qui peuvent être commercialisés de façon intelligente en distribution sélective, pharmacie, en travel retail, qui ont aussi du pricing power et qui peuvent être plus grandes que Fournival Altesse. Fournival Altesse, on l'a utilisé, on l'utilise aussi un peu comme cheval de Troie pour un certain nombre de clients en travel retail et en distribution sélective. Mais déjà, elle va être consolidée au 31 décembre elle a organiquement une croissance assez importante malgré l'environnement qui n'est pas du plus a priori favorable. Mais il y a une désirabilité de ces produits qui est importante. On a réinventé leur packaging, leur PLD, ce qui pour nous était indispensable avant de les mettre sur le marché. Mais oui, on a des acquisitions en cible. Elles sont généralement déjà assez internationales et on veut pouvoir les internationaliser davantage. Il y a des gens très intelligents qui nous expliquaient qu'ils allaient absolument acheter des acteurs sur le personal care qui avaient des contrats moins long terme que nous et qui voulaient faire payer X fois leur résultat 2020. On n'a pas vraiment voulu suivre ce chemin. Et en même temps, je rappelle qu'on a des contrats pluriannuels et on est toujours d'ailleurs dans des contrats importants pluriannuels. On est titulaire du plus gros contrat d'Europe sur personal care. Et donc lui, il a de la volatilité où 2021, ils ont commandé un peu plus que leur tendance. 2022, on a, nous, un engagement de réactivité à une semaine. Donc, en fait, eux, c'est ce qui explique aussi la rentabilité qu'on a quand ils ont des commandes. Et donc, ils durent jusqu'à 2024, ce contrat existant. Et on a d'autres contrats également, et qui eux-mêmes s'adaptent avec une composante en fait service qui est très importante et une réactivité qui est très importante. La contrepartie, c'est que nous, on a de la volatilité sur l'activité, mais par contre, qu'on a une très forte rentabilité. Donc, on n'a pas de sujet non plus de pricing des futurs contrats là-dessus parce que, de toute façon, on est le seul à pouvoir le proposer dans ces proportions et en Europe. Donc, l'alternative, elle n'existe pas. Elle existe en Asie. Elle ne répond pas à la problématique. Je rappelle, pour qu'on est capable de passer à des unités allant de 0 à 5 millions à 7 jours, qui est absolument unique en Europe. Ça explique les très fortes rentabilités qu'on rencontre sur cette activité et qui est un service, en fait, quasiment plus qu'un produit. C'est-à-dire que ça évite aux clients de payer du stockage long, ça lui permet une très forte adaptation, ça lui donne une sécurité d'approvisionnement. La contrepartie, c'est que nous, on a de la volatilité sur cette activité, c'est pour ça qu'on parle hors sanitaire, dans un contexte où le reste aussi est reparti, mais en face, on a une très forte rentabilité. Et on n'a pas de pression à la baisse des prix par rapport à ce service, pour le dire. C'est un service unique, ça ne veut pas dire qu'on veut le pricer n'importe comment, mais il est pricé quand même très haut, mais à une valeur qui est destinée. estimé très élevé par les clients, c'est des acteurs publics, les banques assureurs, les grands réseaux, ceux qui est les énergéticiens, par exemple, qui ont besoin d'une continuité d'activité, ce sont les fournisseurs d'utilités essentielles et les grands réseaux français, donc, par exemple les banques qui sont restées ouvertes pendant les lockdowns. Évidemment, elles font partie de nos grands clients récurrents et qui eux-mêmes ajustent du stock et qu'on aide à gérer le stock. En même temps, je rappelle que l'outil industriel est en partagé entre CFTPCC et Chargeurs Personal Care. Vu que CFTPCC a eu un très gros rebond, d'une certaine façon, ça a mobilisé l'outil industriel. Donc, il y a un jeu un peu de vaste communicant. Quand il y a des lockdowns, bah, il y a moins d'activités Chargeurs PCC Fashion Technologies. Quand, en revanche, il y a beaucoup plus d'activités Personal Care qui absorbent les frais fixes des outils industriels, et inversement, donc on a cette flexibilité-là qui existe et notamment qui fonctionne très très bien en Europe. Répondez au-delà peut-être. On a d'autres questions par téléphone?
Oui, la prochaine question vient de la ligne de Francis Prêtre de Kick Market Solutions. Monsieur, c'est à vous.
Oui, bonjour. J'aurais deux questions. La première concerne toujours sur Advanced Materials, mais j'ai bien...
Attendez, excusez-moi, est-ce que vous pouvez parler un tout petit peu plus fort parce qu'on ne vous a pas entendu.
Oui, d'accord. Donc j'ai deux questions. La première concerne la division, donc protection film. J'ai bien compris la partie énergie, la partie prix. Je voudrais plutôt aborder aujourd'hui la partie volume, en bien comprendre un petit peu les évolutions en la matière sur le T1, T2, qu'est-ce qu'on peut attendre sur le sujet des volumes, donc ça correspond à l'activité, avec, si possible, votre vision entre l'Europe, les États-Unis. Donc, c'est un point non négligeable. Et la deuxième partie de ma question concerne un petit peu les dernières croissances externes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus concernant le volume d'affaires, la dynamique? Alors, j'ai bien compris que vous allez mettre en place un certain nombre de corners dans le monde, mais est-ce qu'on pourrait avoir quelques éléments complémentaires pour pouvoir bâtir quelque chose de plus précis? Merci beaucoup.
Bien sûr. Alors, chargeur protectif film a été rebaptisé chargeur Advanced Materials pour mieux refléter que ce sont des films de process et pas du packaging sur chargeur protectif film, c'est-à-dire que c'est des films qui sont utilisés dans le process de production des industriels. Alors, ma réponse va être un peu plus longue peut-être sur chargeur Advanced Materials pour vous dire un peu notre ressenti, qui est un ressenti aussi sur la base du terrain, puisque nous venons là ces toutes dernières semaines de faire une tournée mondiale dans nos sites occidentaux, en passant pas mal de temps en Allemagne, en Italie et aux États-Unis, qui forment quand même plus de 50% de notre activité mondiale dans ce métier. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est un découplage assez significatif entre au sein des pays développés. Il y a encore le cas, j'ai éliminé un peu le cas de l'Asie pour l'instant, puisqu'il y a encore beaucoup de lockdown en Asie, donc il y a du stop and go, des villes qui ouvrent, on est obligé de déplacer les stocks. Bon, même si Taïwan reste à un niveau élevé en termes de plateforme de redistribution en Asie, mais bon. Grand découplage entre la situation américaine et la situation européenne. Les Américains subissent l'inflation, mais n'ont pas du tout les mêmes problématiques énergétiques et ne vivent pas non plus d'ailleurs les mêmes problématiques financières qu'en Europe. Donc nous, notre ressenti, notre observation, c'est un très grand découplage. Les Américains sont pleins de projets, pleins d'ambitions, pleins de capitaux, pleins de dynamiques, donc ça reste fort. Je rappelle que c'est notre premier marché. Ensuite, en Europe, c'est beaucoup plus contrasté. L'Allemagne est dans un ralentissement que tout le monde connaît par rapport à des niveaux très élevés aussi. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, il est encore, paradoxalement, c'est encore un peu tôt pour dessiner la trajectoire parce que, pour faire simple, en Europe, les clients réduisent le lead time de leurs commandes et demandent beaucoup plus de commandes réactives et sont moins dans une programmation parce que par exemple les Allemands ne savent pas s'ils auront de quoi faire tourner leurs usines en novembre. Donc ils n'ont pas de rationnel à le faire. Donc de ce point de vue-là, il y a moins de visibilité en Europe, donc nous on flexibilise les outils. Les États-Unis restent à un niveau élevé, donc là on produit en Europe et on sert les États-Unis et on produit aux États-Unis aussi. On va peut-être accroître la production aux États-Unis dans les mois qui viennent pour aussi bénéficier du mix énergétique américain. Mais c'est un peut-être parce que il y a tellement de décisions là au jour le jour et on est dans un monde qui s'adapte au jour le jour sur la situation des coûts de l'énergie. Si demain il y a d'abord un changement du mode de calcul du prix du mégawatt électrique et de sa décorrélation avec le gaz, ça va changer le fonctionnement du marché de l'énergie, donc le mix, donc les réactions des opérateurs économiques en Europe. Si la semaine prochaine ou la semaine à venir, il plafonne en plus le prix de l'énergie électrique, voilà, ça va aussi changer énormément la donne et jouer des jeux de substitution. Ça va faire déspéculer le marché. C'est une mesure anti-spéculative, bien sûr. Donc, nous, ce que je peux vous répondre, c'est notre grande adaptabilité. Ensuite, on a des carnets de commandes qui sont bien plus élevés qu'en 2019. On voit sur les États-Unis un softening, on voit sur l'Europe du stop and go, c'est plutôt des effets de stop and go. Mais en même temps, on s'adapte comme on l'a fait aussi en 2020. On avait un peu la même situation de stop and go en 2020, puis à la fin, on a eu un chiffre d'affaires qui était assez préservé. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, la situation, nous sommes très contrastés et les Américains ne sont pas du tout dans le même mindset que les Européens. Mais pas du tout, du tout. Je trouve que 40% de l'activité de chargeur est directement et indirectement liée aux États-Unis. Donc j'ai envie de dire, d'une certaine façon, ça nous rassure. Mais les Américains ne sont pas en train de débattre de l'ampleur d'une récession. Ils ne sont pas du tout là-dedans aujourd'hui. Ils ont l'impact de l'inflation, mais tous les prix se décalent vers le haut. Nous-mêmes, on décale les prix vers le haut. Les salaires augmentent. Bon, voilà, tout augmente, les loyers augmentent, les intérêts augmentent. Enfin, vous connaissez, vous êtes plus experts encore que nous de tout ça, mais c'est assez significatif. L'Europe est dans une situation beaucoup plus contrastée et qui demande beaucoup plus de réactivité. Par contre, nous, on pense qu'il ne faut pas interpréter et extrapoler les stop and go, parce que concrètement, en Europe, personne ne sait. Donc, on ne va pas avoir une boule de cristal pour dire ça va aller dans telle ou telle direction. Il y a des plans. L'Allemagne a quand même annoncé 85 milliards d'euros de compensation. C'est historique. Nous sommes aujourd'hui même au Royaume-Uni. C'est 115 milliards de livres qui sont annoncés par la nouvelle Premier ministre en termes de compensation des coûts de l'énergie. Donc, voilà, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. En ce moment même, à la rentrée, on a un peu le sentiment qu'il y a eu du retard à l'allumage dans la prise de conscience de l'impact de ce désordre énergétique sur l'économie de la part des décideurs européens et qui, là, en rentrant de vacances, se disent « Ah oui, il faut s'occuper de ce sujet » et donc ils s'en occupent et ça devrait, à un moment donné, un peu calmer aussi les spéculations sur les marchés de l'énergie et toutes ses conséquences derrière. Ensuite, s'il y a de la régulation sur les approvisionnements énergétiques en Europe, les industriels, je pense, vont quand même s'adapter. Quand vous entendez ArcelorMittal qui dit « je ferme une usine en Belgique parce que le coût de l'énergie est très élevé », oui, enfin, il dit en même temps « je pousse mes usines aux États-Unis, mon compte de l'énergie pour 2023 va être 15 fois moins élevé en moyenne. Donc, nous, on le servira aux États-Unis au lieu de le servir en Belgique. » Voilà, c'est donc… bref, on suit les clients là où ils sont, on s'adapte. On observe aussi, c'est pour ça qu'on en parlait, des plans de compensation, des plans d'adaptation. Nous, notre vrai sujet, c'est la sécurité continuité d'approvisionnement. Nous l'avons. Nos fournisseurs critiques aussi l'ont. Donc voilà. Sur les acquisitions, pour revenir sur le deuxième sujet. Donc, pardon, en synthèse, sur le premier, on est prudent mais très adaptatif. Et dans des marchés qui sont eux-mêmes structurellement portés et porteurs. Donc, c'est un peu ça, je pense, qu'il faut retenir. Sur les acquisitions, donc là, Oui, pardon.
Je me permets juste de vous interrompre avant de passer au deuxième sujet. Cela peut-il sous-entendre que vous qu'on puisse avoir un peu plus de business américain?
Excusez-moi, vous pouvez parler un tout petit peu plus fort, on vous entend un peu loin.
Ah. Est-ce que cela sous-entend qu'on puisse avoir un peu plus de business américain à attendre au cours des prochains mois? Et est-ce que cela sous-entend qu'on puisse avoir, du fait, je dirais, de la réaction politique pour pouvoir tout contrebalancer ce qui se passe en Europe, avoir peut-être une activité en fin d'exercice un peu plus élevée qu'attendue et, à contrario, un T3 plus marqué par le stop and go au niveau européen?
Alors, c'est assez juste et je compléterai en disant que est-ce que, alors, il y a des questions auxquelles on n'a pas la réponse parce que, mais on a des éléments, nous, d'analyse de la situation. Je vais vous expliquer. Sur l'Asie d'abord et la Chine. Comme vous le savez, il y a un congrès en Chine qui peut avoir beaucoup d'incidence en termes de décision de plan de relance ou de maintien de la politique zéro Covid ou, enfin voilà, donc il peut avoir de très grandes incidences macroéconomiques sur l'Asie. Sur l'Europe, bon, ben, soit l'Europe se réveille et cesse de se faire peur, soit elle se suicide. L'équation, elle est là. Soit c'est un suicide économique et industriel, soit elle se réveille, elle s'organise pour éviter une situation de pénurie et de récession dont elle se remettra assez difficilement, pensons-nous. Sur les États-Unis, bah oui, je pense que là, enfin, ce qu'on observe, c'est quand même les États-Unis, il y a des usines qui ouvrent, ils attirent, ils sont quand même très bénéficiaires de la situation. En plus, il y a une compétitivité aux importations par les Américains des produits européens. Donc on bénéficie de cette compétitivité. Donc nous, on pense qu'il peut y avoir des jeux de compensation et une redistribution des chaînes productives mondiales très très rapide dans les mois qui viennent. D'où l'insistance que je mets sur l'adaptation. Donc je dirais, oui, vous avez raison, je pense qu'il peut y avoir de la volatilité sur le T3. Après, il peut y avoir les réactions T4 et T1 en sens plus stabilisé en 2023 si les décideurs publics prennent les bonnes décisions. J'ai envie de dire, les opérateurs économiques subissent là en ce moment plus l'effet depuis d'ailleurs le Covid. Nous, on a toujours dit, c'est pas une crise sanitaire. C'est l'impact de décisions souveraines. Le lockdown en soi, c'est pas le Covid qui a provoqué les lockdowns. C'est les décisions publiques sur le Covid. C'est pas exactement la même chose. Et donc, c'est pas en soi l'invasion de l'Ukraine qui a provoqué la crise énergétique. C'est les décisions de sanctions, qui sont des décisions souveraines, qui s'imposent à tous les opérateurs économiques. Donc, c'est pour ça que je dis, nous, bah, finalement, on regarde nos différents edges par rapport à ces situations, nos zones de production. On est avec nos clients, on les suit là où ils ont besoin. S'ils vont plus aux États-Unis, on les accompagne. S'ils veulent aller plus en Asie, on les accompagne. Voilà. Et on passe notre temps à s'adapter comme ça. Et à éviter de se faire piéger à je joue le hedge à mon tour et j'essaie de me couvrir sur des trucs qui n'ont pas de sens à comme le cas d'énergie à 12 mois ou 24 mois, ce qui est une absurdie et un danger économique industriel. Bon, donc je suis assez d'accord avec notre analyse est assez convergente avec ce que vous dites. En disant, bon voilà, so far, il y a aussi de la consommation mondiale, il y a aussi de l'épargne qui se déploie. Il faut aussi faire la façon dont Chargeur appréhende tout ça dans un contexte où, par exemple, la France, pour Chargeur, c'est 5% du chiffre d'affaires mondial. 95%, donc on s'intéresse, on a quand même une logique qui est 80%, on s'intéresse d'abord à ce qui est 80% de l'enjeu et de la rentabilité. Voilà, après on a de la production en France, c'est plutôt un atout parce qu'il y a le parc nucléaire. Mais voilà, encore une fois, il y a beaucoup de décisions souveraines, persistance de la stratégie zéro Covid ou pas, nouveau lockdown, nouvelle vague pandémique ou pas, il y a beaucoup de paramètres, mais voilà, on est capable d'allumer des moteurs différents selon les circonstances, donc on les prépare pour les allumer et ou les éteindre selon les circonstances. C'est un peu comme ça qu'on, qu'on est en train de faire. Maintenant, c'est sûr qu'on préférait avoir une fusée dans un ciel bleu, qu'on regarderait partir depuis la Floride, et ça ferait des magnifiques photos, mais il y a des nuages dans le ciel, et puis il y a des turbulences, et la fusée part pas le lundi, elle part le samedi, ou elle partira le lundi, mais bon, elle est là, et voilà. Donc, on s'adapte comme ça. Je sais pas si ça répond à votre question, mais c'est pour vous dire un peu notre état d'esprit. Sans froid et restabilité, on essaie d'être là-dedans, et ensuite, on fait pas de prévision, parce que tous les jours, il y a des décisions publiques qui peuvent remettre en cause ou pas. Ce qu'on sait, c'est que nos sites sont armés pour ne pas avoir à fermer, ni pour des questions énergétiques, ni pour des questions sanitaires, parce que l'essentiel de nos sites mondiaux ont aussi des activités sanitaires qui les rend, il est impossible de les fermer, par exemple, en cas de lockdown, puisque même aux États-Unis, notre site de chargeurs Advanced Materials est aussi le site de chargeurs Personal Care, ce qui est aussi une protection par rapport à certains environnements de décision publique hâtive. Donc voilà, mais voilà, on a ce contexte-là. Sur les acquisitions, si j'ai répondu le plus complètement possible à votre question, du coup sur les acquisitions, donc on a poursuivi notre stratégie d'acquisition. Aujourd'hui, Museum Studio, c'est ce que disait Olivier Buquin. Que fait Museum Studio? Grâce à la combinaison d'actifs qu'il y a dans Museum Studio qui est unique au monde. Museum Studio, en fait, c'est un studio de création de contenu culturel qui aide les grands décideurs publics, les grands décideurs privés, les dirigeants d'institutions culturelles, les dirigeants de grandes marques de luxe ou de grands lieux d'expérience, à faire de leur marque une marque d'excellence en travaillant sur 4 leviers. On les aide à développer leur accessibilité, leur visibilité, y compris digitale. On les aide à élever leur pouvoir éducatif dans les expériences physiques et digitales avec des outils traditionnels et des outils immersifs. On les aide à diversifier leurs revenus. Donc, quand on achète un éditeur spécialisé et reconnu mondialement, ça leur permet, eux, de diversifier leurs revenus. Et cet éditeur est aussi producteur et gestionnaire même de bookstore. Dans beaucoup de territoires en Italie, par exemple. Donc, ça les aide à diversifier leurs revenus. Et puis, on les aide de plus en plus aussi à travailler sur les problématiques de connexion à leurs différentes communautés. Je prends un exemple. Quand un grand musée d'un pays occidental fait des restitutions à d'anciennes colonies ou d'anciens territoires qui avaient fait l'objet de transferts d'œuvres, Par exemple, nous derrière, on va créer les musées dans ces pays qui sont les pays de mise en scène de ces œuvres qui sont restituées. Donc ça concerne le monde francophone et anglo-saxon. Donc on a aujourd'hui un panel de compétences qui est extrêmement élargi, ce qui fait qu'on a, pour résumer ce que disait Olivier, on a toujours quelque chose à vendre à ces institutions. Il y a les institutions culturelles, il y a aussi les marques. Il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, les marques ont des stratégies de valorisation de leur legacy et de leur expérience qui est extrêmement importante. Dior vient de terminer, toutes les grandes marques ont un musée aujourd'hui, les grandes marques mondiales ou des experience centers. On travaille avec des marques comme Philips, par exemple. Donc, on va de Carlsberg au Metropolitan Museum. Donc, on a aussi un grand écart. L'activité Museum Studio, vous l'avez noté, effectivement, là, elle ne porte l'absorption de ses charges fixes uniquement avec les premières phases des grands projets qu'elle a gagnés. C'est-à-dire qu'elle a quasiment pas eu, elle a eu quasiment zéro activité événementielle au premier semestre, et aussi, il faut le dire, elle a eu zéro compensation publique, puisque aux Pays-Bas, ils ont arrêté les compensations, au Royaume-Uni, ils ont arrêté les compensations, aux États-Unis, ils ont arrêté les compensations. Donc, elle a absorbé toute seule, comme si elle avait eu ces activités, et nous on a gardé les salariés, il n'y a pas de dispositif de compensation, et nous on ne voulait pas perdre des compétences. Donc c'est un choix aussi qui est assez rationnel, parce que si on développe et qu'on a des projets plus larges, si on commence à arbitrer les compétences, dans un monde déjà en plus où les compétences sont dures à avoir, on les fait travailler autrement, mais ça c'est extrêmement important. Olivier a dit le portefeuille d'activité s'étend, donc on a acheté Skira Editoriale et on achètera sans doute aussi d'autres éditeurs. Alors, c'est des éditeurs qui fonctionnent sur un modèle où ils ont peu de risques d'édition, puisqu'en fait, ils ont beaucoup de livres qui sont commissionnés. Donc, le livre est préfinancé avant d'être édités. Ils ont une activité de production là où ils ont le risque de production de grandes expositions, ils ont le risque et le gain en face de production ainsi que la production audiovisuelle. Nous avons dans un autre registre, et nous sommes en train de mener une immense réinvention de Swayne, qui est l'une des plus anciennes marques de luxe au monde. Pour donner un peu des équivalences en termes de positionnement de marché, Swayne est un peu en référentiel, un peu comme Goyard. Donc c'est un peu ce positionnement de marché-là qu'ils ont. Donc très haut de gamme, très ultra luxe, mais notre stratégie n'est pas du tout d'en faire une marque axée sur le gentleman ou une marque uniquement artisanale. C'est d'en faire une marque qui a une diffusion mondiale. Pour soutenir cette diffusion, on a racheté aussi Cambridge Satchel, qui elle est sur un positionnement différent, mais qui nous offrait un outil industriel en Angleterre qui nous évitait de repayer un outil industriel. Donc en fait, on a fait une synergie où nous avions besoin de capacités productives en maroquinerie au UK et on a acheté et la capacité et la marque qui, elle, bénéficie d'une grande reconnaissance auprès des célébrités et qui est assez intéressante en modèle aussi d'intégrité de marque. Donc on a pu faire une très très bonne affaire, totalement opportuniste, mais qui vient s'intégrer dans la stratégie de Swayne. Et puis à côté, on a la marque Cambridge Satchel qui va continuer sa vie. Cambridge est très réputé en Asie parce que en fait, il y a même d'un grand poète chinois qu'apprennent tous les Chinois à l'école sur Cambridge. Et donc, c'est comme les fables de La Fontaine, ils l'apprennent. Donc après, ils connaissent très très bien Cambridge et ils s'achètent beaucoup Cambridge Satchel, qui explique la grande diffusion en Asie. Donc on s'est dit aussi que ça allait nous soutenir la diffusion en Asie. On a pour Swayne effectivement la conclusion d'accords en cours pour des ouvertures en fait un peu plus que de corners, même de magasins au Japon, puisque les Japonais sont assez friands de la marque. C'est une marque qui existe de façon discontinue depuis 272 ans et c'est un critère très important pour nous. On cherchait une marque qui ait un fort potentiel stratégique avec une continuité une continuité d'activité depuis 270 ans. On voulait pas faire un turnaround ou un revival d'une marque. On voulait vraiment une marque qui existait, qui avait son périmètre, mais qui avait besoin d'être totalement réinventée. Et là, elle a déjà commercialement été déplacée dans Londres et c'est un très grand succès. Elle sera consolidée en 2023 et donc l'attente qu'on en a, c'est quand même aussi de la faire grandir assez vite avec des modèles de rentabilité dans nos standards et d'en faire un pôle qui pèsera à moyen terme plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires et voire au-delà. Donc voilà, on dose aussi nos investissements pour bien mesurer le retour et dans un contexte où en plus on peut s'offrir des conditions retail qui sont assez avantageuses, qui ont été assez avantageuses quand on a pris les premières positions et qu'il reste pour nous pour les années à venir, notamment y compris sur le nouveau flagship store qui sera à Londres et qui présentera la nouvelle gamme produit et ça c'est aussi important. Mais on va continuer de faire des acquisitions. On reste sur un modèle, on s'achète pas d'éléphants blancs, on fait des acquisitions qui vraiment renforcent nos actifs et ensuite on les développe. Parce que faire des acquisitions, on n'est pas un fonds, faire des acquisitions pour faire des acquisitions et les laisser vivre les entreprises les unes à côté des autres, c'est pas notre modèle. On a un très fort modèle d'intégration. On a acheté en 2018 Chargeur PCC Fashion Technologies. On a acheté PCC qui est devenu Chargeur PCC Fashion Technologies. Aujourd'hui, tout est intégré. Les équipes commerciales sont intégrées, les clientèles sont intégrées, les systèmes d'information sont intégrés. Il y a beaucoup de sociétés, elles achètent d'autres affaires, mais elles ne les intègrent jamais. Là, on les a intégrées. Je dis d'autant plus qu'il y a dans la salle Audrey Petit qui a présidé à cette intégration depuis l'Asie. Le résultat, c'est que on a gagné énormément de parts de marché chez nos clients, qu'on n'a perdu aucun client, on n'a eu aucun effet de doublon, on a eu au contraire des gains de parts de marché parce qu'on pouvait élargir les offres de gamme et ils avaient un one-stop shopping. Donc, Museum Studio aujourd'hui, c'est vraiment identifié comme un one-stop shopping par les grands décideurs sur les composantes culturelles. Ça n'existe pas, il n'y a pas de concurrence mondiale. On a gagné les plus gros marchés aux États-Unis et dans le Golfe sur ces activités. Maintenant, elles ont un phasing aussi où en, là, on est un peu dans la phase des 25-30 premiers pourcents. Donc, en reconnaissance, profit, chiffre d'affaires, c'est plutôt les vaches maigres au début, puis après, ça s'épaissit. Mais il faut faire ces vaches maigres pour avoir les vaches grasses. Donc, c'est le jeu de l'exercice. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Il y a peu de questions dans la file d'attente. Si vous souhaitez poser une question, appuyez sur étoile.
Il y a une question s'il y en a une, et on libère après tout le monde, parce que je sais que c'est des agendas chargés.
J'ai peut-être une question rapide. Vous parlez de cross-selling dans votre dans la publication de ce matin entre entre CFC et CLF. C'est autour de combien de pourcents, à peu près de quel montant?
Alors, aujourd'hui, je dirais que... alors, 2019, c'était zéro. Aujourd'hui, je dirais que ça concerne 10% de la clientèle. Je pense qu'en 2023, ça concernerait sans doute 20% de la clientèle, tout simplement parce que les clients que nous avons chez CFTPCC, Fashion Technologies, ont des grandes problématiques sur la gamification, la sustainability, et du coup viennent nous voir, ils viennent nous voir et on les sollicite sur Charger Luxury Cyber. Le cross-selling à ce cas d'espèce s'applique intermétier, mais on a aussi beaucoup de cross-selling intramétier. Et donc on a beaucoup de commerciaux qui nous parlent eux-mêmes de cross-selling, qu'ils entendent par je vendais tel produit très niche, très spécialisé à un client, et puis lui vend les gammes qui sont à côté. Et c'est vrai au sein de CFT-PCC, c'est vrai aussi, ça c'est vrai dans tous les métiers, mais c'est vrai au sein de CFT-PCC, et c'est vrai aussi au sein de CLF, puisqu'on a des clients aujourd'hui qui nous demandent de répliquer ce que nous avons fait sur les fibres de laine, par exemple sur le coton. Parce qu'ils nous identifient comme un finalement, on joue l'intermédiaire entre les grandes marques et les producteurs directement. Et on a le système de blockchain qui les plug et tout l'appareillage industriel et logistique derrière. Ce n'était pas le cas avant. Avant, on vendait de la laine. Pour ceux qui nous suivaient à l'époque, il y a 5 ans, on vendait de la laine à des filateurs qui le vendaient à des fabricants de tissus, qui le vendaient à des makers, qui le vendaient à l'homme, qui avait vu le loup, qui avait vu la chèvre, qui avait vu l'homme qui avait oublié d'avoir vu la chèvre. Là, on est sur une dynamique complètement différente. En fait, on vend directement à la marque qui ne se préoccupait pas de cette fibre, mais qui maintenant s'en préoccupe parce que c'est un enjeu d'intégrité de référentiel de marque. Donc, des marques comme Stella McCartney sont des fidèles et ont très tôt été précurseurs, mais on va faire des annonces aussi dans les semaines à venir sur des grandes marques de luxe et de réputation internationale, en fait, qui basculent 100% en approvisionnement chez nous et avec des accords qui comprennent la composante produit, mais aussi la composante service. C'est-à-dire qu'on vend aussi beaucoup d'outils pour leur marketing. On vend des outils qui accompagnent aussi l'élévation des standards de production chez les grands producteurs. Donc, c'est vraiment imbriqué. Et donc, c'est pour ça qu'on insiste sur la notion de partenariat commercial, parce qu'en fait, on ne vend pas un produit. Et une fois qu'ils sont chez nous, c'est des contrats pour 5 ans, 6 ans, 7 ans. Ça a été, il faut le dire aussi, très long à passer dans le marché. Mais le marché a basculé durant le Covid là-dessus. Et on n'est pas beaucoup investi financièrement pour mettre en place ces dispositifs, mais ça prenait quand même du temps. Et c'était long à mettre en place, mais ça se... Et là, toutes les semaines, on a des marques comme Decathlon qui passent, par exemple, sur le modèle Nativa. Decathlon, pour vous donner une idée, c'est le plus gros producteur de textile en France. Enfin, le plus gros vendeur de textile en France, Decathlon. On ne le savait pas, mais... Voilà. Donc, et eux utilisent beaucoup de produits et beaucoup de laine pour leurs produits de performance, les t-shirts, les sportifs, mais pas que, ils utilisent pour plein d'autres produits. Donc, on a, nous, ce basculement-là qui est vraiment accéléré. Là où on parlait de quelques dizaines de tonnes, l'unité est passée à centaines de tonnes et passe à milliers de tonnes progressivement. C'est quand même des enjeux élevés. Et on est les seuls dans le monde à faire ça. Donc c'est un peu comme Museum Sur, on est les seuls dans le monde à faire ça. Maintenant, il faut... là aussi, ça a été... on a arbitré du chiffre d'affaires qui était peu rentable et avec peu d'avenir vers du chiffre d'affaires qui en a plus et qui met du temps à aussi délivrer de la performance. Bien.
Très bien. Bah, écoutez, merci à tous pour votre attention et à très bientôt. Notre prochaine publication aura lieu au mois de novembre avec le chiffre d'affaires du troisième trimestre. Bonne journée à tous. Merci.
Merci à tous. Bonne journée.
Merci d'avoir participé à la conférence d'aujourd'hui. Vous pouvez maintenant raccrocher.